Bonjour à tous, chers amis, et voici la deuxième partie de notre épisode sur la famille, faire des enfants, fonder une famille avec Grand Lucas. Vous savez, l'idée de ce podcast est de réagir à la baisse record du nombre de naissances en France et de répondre aux questions que vous m'avez envoyées sur Instagram. L'idée était d'avoir, avec notre petite expérience de père de famille, de répondre à vos questions, à vos interrogations. Alors je vous rappelle que pour ce second épisode, je suis avec Grand Lucas, donc lui-même est père de famille. Allez retrouver Grand Lucas sur Instagram, c'est Grand Lucas-du-bas podcast, et je vous souhaite une excellente écoute. À bientôt.
Comment avoir des enfants, comment protéger ses enfants quand on est à contre-courant par rapport à toute la propagande actuelle, ouais. Que ce soit sur le côté wokisme ou peu importe. Je sais que c'est vraiment quelque chose qui est très difficile parce que moi je suis en plein dedans par exemple avec mes enfants. On a une manière de voir l'éducation de nos enfants et on se dit putain, ils vont passer leur semaine à l'école, ils vont, selon le mode de vie qu'on a, passer du temps chez la nounou et finalement ils vont être influencés et finalement éduqués par des gens qui ne pensent pas comme nous, alors que c'est avec ces gens-là qu'ils passent peut-être le plus de temps. Il faut comprendre que vos enfants, alors déjà, c'est une part de vous, donc il y a un côté génétique hein, déjà de base, et ensuite, ce que vous leur donnez, c'est une partie de ce qui va faire leur être. Je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais vos enfants seront forcément un jour ou l'autre influencés par l'extérieur. Ils vont être confrontés à du bon et du moins bon. Vous ne pourrez pas toujours les protéger. Moi, avec mes enfants, j'ai cette philosophie-là. Je leur donne tout ce que je sais, tout ce que je crois savoir, en tout cas, ma manière de voir les choses. Mais même si je fais mon maximum pour les préserver, j'accepte qu'ils soient confrontés à d'autres réalités et à d'autres difficultés. Et c'est ce qui fera, si mon éducation tient la route, que plus tard, ils auront la force de dire non à certaines choses. C'est ce qui fera qu'un jour, ils auront peut-être la force de débattre avec des gens qui n'ont pas la même vision des choses. Ce seront les adultes de demain, en fait. Donc, ils ont besoin d'être confrontés aux difficultés d'aujourd'hui. Et vous dire que, mince, aujourd'hui à l'école, on est dans le progressisme, on apprend qu'être homosexuel, c'est tout à fait normal, on apprend qu'être un drag queen, c'est tout à fait normal. Moi, c'est intolérable pour moi que mon enfant, il entende ça. Si vous mettez dans la tête de vos enfants les bonnes choses, les bonnes graines, ça va germer petit à petit et votre enfant, il fera le tri. Donc je sais que c'est très angoissant, je sais que ça fait peur, je sais qu'on a envie de mettre nos enfants dans une petite bulle de sécurité, mais de la même manière que vos enfants, ils vont se faire mal, se casser un bras en faisant du vélo, ils vont peut-être un jour se mettre un gros gadin parce que vous aurez le dos tourné et qu'ils vont essayer une nouvelle figure sur le trampoline, je sais pas, peu importe, eh bien, au niveau de ce qu'il y a dans leur tête, de leur manière de voir le monde, il va aussi y avoir des petits couacs. Il va y avoir des gens qui vont se permettre de dire des choses à vos enfants avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, mais c'est la vie. Vous faites votre rôle, soyez présent, et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, plus vous serez présent, plus ce sera facile, mais il ne faut pas avoir peur du monde dans lequel on vit. Je parle d'un truc pas cool, mais quand Adolphe il faisait son business à l'époque, les Juifs ont continué de faire des enfants. Et pourtant, ils risquaient de se faire exterminer. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc nous, c'est pareil. Moi, j'ai fait mes enfants en sachant que oui, va y avoir des problèmes, va y avoir des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais contre lesquelles je ne pourrais pas faire grand-chose, mais je vais quand même faire mon maximum. Et plus tard, quand mes enfants ils me diront « Putain, papa, t'as raison, là, c'est vraiment des abrutis, ceux-là, ils n'ont rien compris », je pourrais juste être fier de moi parce que j'aurais planté une petite graine, j'aurais transmis ma vision des choses, ma manière de voir le monde, et je fais perdurer finalement mes certitudes, tout simplement.
Ne rentrez pas dans ce piège que beaucoup de parents, dans lequel beaucoup de parents tombent, c'est vouloir donc protéger son enfant de tous les mensonges, de toutes les perversions du monde moderne, en les mettant dans des bulles, des écoles privées, hors contrat, etc. Et après, lâcher l'affaire et se dire c'est bon, il est à la bonne enseigne, moi je m'en fiche. Ça, c'est le piège ultime. Alors, très bien ces écoles, etc. Mais sachez que même dans ces écoles, si vous n'êtes pas derrière avec votre enfant et vous ne surveillez pas certaines choses, ou du moins vous oubliez de discuter de tous ces sujets. Parce qu'en fait, votre enfant, comme disait Lucas, il va falloir qu'il soit éveillé, qu'il ait une conscience aiguisée. Juste le mettre dans la bonne école ne suffira pas. Ne suffira pas parce que moi j'ai des exemples, j'ai été dans des écoles non mixtes qui étaient des très bonnes écoles et là j'ai reçu beaucoup plus, mais j'ai aussi vu plein de choses qui ont tout à voir avec le pire de l'école publique, etc. Fumer, se bagarrer, parler de sexe, parler de pornographie, etc. Ça je l'ai vu même dans des très bonnes écoles. Donc même là-dedans, vos enfants, ils ne seront pas prémunis. Donc il faut pas se dire je vais éviter tout ça en mettant mon enfant dans une petite école catho de garçons, etc. et tout se passera bien. Non, malheureusement, même dans ces écoles, s'il n'y a pas une transmission qui se fait avec les parents, sachez que votre enfant il va recevoir des valeurs, mais il y aura aussi plein de choses qui vont se péter la gueule. En fait, moi j'ai énormément d'exemples autour de moi d'enfants qui ont eu des parents qui étaient des militants, qui étaient des personnalités publiques. Leurs enfants sont des putains de déchets. Mais vraiment, et ils ont fait les meilleures écoles, etc. Mais parce que derrière, le daron s'est dit « Ah mais non, mais c'est mon fils, il va être, ça va être un gars bien, ça va être un gars droit, etc. » Bah non, en fait, parce que l'école n'éduque pas vos enfants à votre place. Il faut rester vigilant avec votre enfant, même si vous le mettez dans le hors contrat, même si vous le mettez dans le privé. Si vous le mettez dans le public, bon bah là, il va falloir être derrière chaque cours, derrière chaque machin, il va falloir être super vigilant parce que en effet, là, il va se faire laver le cerveau à vitesse grand V. Votre enfant, il lève la main, il fait « Ah oui, c'est bizarre, les transsexuels, qu'est-ce que t'es en train de me dire ?» Fils se fait corriger par le prof, il a l'impression d'être exclu du groupe de la classe et d'être le marginal. Donc la puissance psychologique du système va faire des ravages pour lui parce qu'il va avoir l'impression d'être exclu du groupe. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand vous êtes le paria du groupe parce que vous n'êtes pas du même avis que le prof et que l'ensemble de la classe, si vous n'êtes pas un peu charpenté parce que vous êtes un peu jeune, c'est traumatisant. Vous avez vraiment l'impression d'avoir été mis au banc du groupe, et si derrière les parents ne sont pas là en soutien et ne rappellent pas à l'enfant qu'il a eu raison de le faire et qu'il ne faut pas qu'il s'inquiète s'il a la désapprobation de toute sa classe, s'il n'y a pas des parents qui sont là, bah l'enfant il va suivre le courant. Donc voilà, donc il faut être super vigilant. Ok, alors on a une autre question. Ma copine n'en veut tout simplement pas, donc d'enfant, et elle n'est pas gauchiste pour autant. Lucas, vas-y.
Eh ben, pour moi, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de tout de suite trouver la bonne personne en exprimant réellement ses envies et ses désirs. Parce que bah, si vous êtes avec quelqu'un avec qui vous vous entendez très bien et avec qui la vie en couple est géniale, mais qu'il y a un point fondamental sur lequel vous n'êtes pas d'accord, un jour ou l'autre, vous irez droit dans le mur. Alors je sais que c'est extrêmement compliqué de dire « Bon, bah allez, on se sépare alors qu'on s'aime, alors que tout va bien. » Mais si vous ressentez l'envie d'avoir des enfants, un jour ou l'autre, vous ne pourrez plus passer à travers, en fait. Vous ne pourrez pas laisser ça de côté. Donc malheureusement, eh ben, même conseil que tout à l'heure, essayez de réellement trouver la personne avec qui vous allez pouvoir passer le reste de votre vie, et ça passe par le bon choix tout simplement dès le début. Ne vous mettez pas avec quelqu'un sans trop vous poser de questions en vous disant « on kiffe notre vie et puis on verra pour le reste un peu plus tard » ou alors « je vais réussir à changer cette personne en prenant mon temps au fur et à mesure ». Ça ne marche pas. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent de ça d'ailleurs, d'hommes avec qui elles se mettent, avec qui elles font des enfants alors qu'ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas, mais voilà, elle matraque, pour pas se séparer, pour pas passer pour l'abruti, le mec qui fait un enfant, et finalement, plus tard, il reproche à sa femme, « Oui, mais moi, j'en voulais pas. » Eh ben, un jour ou l'autre, ça se passe mal, en fait. Donc, si cette personne-là ne veut pas d'enfant, c'est malheureux, mais c'est que c'est pas la bonne personne. Ou alors, ce sera peut-être la bonne personne pour quelqu'un d'autre plus tard, mais ben, malheureusement pour vous, vous en êtes pas au même moment de votre vie, et bah, c'est que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Être fait l'un pour l'autre, ça ne veut pas dire que on s'entend sur tout, on peut avoir des désaccords, mais les choses de base, je veux dire, vous ne pouvez pas vous entendre avec quelqu'un, vous ne pouvez pas faire votre vie avec quelqu'un qui veut vivre en plein centre-ville si vous aimez la campagne et la tranquillité, ça ne marchera pas.
Ouais, des incompatibilités
parfois. Mais bien sûr, voilà, on peut ne pas aimer le même genre de film, on peut ne pas aimer le même genre de restaurant, voilà, Les petites choses superficielles, c'est pas grave. Les fondamentaux, c'est important d'être avec quelqu'un avec qui on ressemble, avec qui on a des affinités, c'est primordial et ça ne marche pas sans ça.
Ouais. Et bon, bah dans ton cas où j'imagine t'aimes ta femme, etc., je pense qu'il y a un facteur qui joue beaucoup. C'est le fait qu'on est de moins en moins. Enfin, oui, on est de moins en moins entouré de gens qui ont des enfants. De fait, parce que dans les villes, bah, on fait les enfants de plus en plus tard. Donc ça prend du temps et nos frères et sœurs n'en ont pas forcément, etc. Moi, par exemple, dans mon entourage, j'ai de la chance. Famille nombreuse, j'ai des grands frères et sœurs qui eux-mêmes ont déjà des familles nombreuses. Donc même avant de me marier, j'avais déjà des exemples autour de moi de familles de 3 enfants. Et je voyais que ça se passait bien, que tout le monde était heureux. Bon, et même au-delà de ça, mes cousins, ils étaient nombreux, etc. Donc les gens ont toujours eu beaucoup de gosses autour de moi, etc. Et en fait, il y a un facteur qui freine. En fait, comme je disais dans le dernier podcast, c'est souvent un cercle vicieux, en fait, la fécondité et la fertilité. On fait les enfants tard, ils sont plus difficiles à avoir. On est plus vieux, donc on a plus de mal à s'en occuper, à se lever la nuit, donc on en fait moins. Du coup, bah, ça fait moins de gosses. Et vu qu'on en a eu tard, bon, bah, si on en aurait eu le temps à 33 ans d'en avoir eu 2-3, et bah, dans 3 ans, on n'en a toujours pas. Donc on n'en aura qu'un ou deux, au lieu d'en avoir 4. C'est un cercle vicieux et de la même manière que moins les gens ont des enfants dans leur entourage, des parents qui ont des enfants, plus ça paraît inaccessible, difficile et anormal. Et bah, ce que je peux conseiller avec ta femme, c'est de fréquenter des gens qui ont des enfants. Ça va beaucoup aider parce qu'elle va pouvoir voir la réalité, elle va pouvoir parler avec des femmes qui en ont, qui sont heureuses, qui ont des pères qui sont contents d'en avoir, des familles qui se passent bien, c'est pas germinal. Parce qu'en fait, ça fait 15 000 ans, enfin 15 millions d'années, je sais pas combien, que l'homme fait des gosses et qu'on a des familles. Et on se pose la question aujourd'hui, ah mais en fait, avoir des gosses, c'est tout sacrifié, c'est tout abandonné. Non, non, c'est pas ça. Donc voilà, un conseil, c'est s'entourer de gens et parler avec des gens qui ont eu des enfants. Voilà, si tu peux essayer d'influencer peut-être ta femme, parce que si tu sens qu'elle a, alors, si tu sens qu'elle a l'âme pour en avoir, etc., mais qu'elle n'a pas envie parce que là, elle a d'autres préoccupations, bon, bah là, il faut essayer que vous mettiez à en parler, à parler avec des gens qui en ont. En tout cas, je préconiserais ça. Ouais. Alors, enfant égale énorme contrainte, aucun point positif, aucune garantie d'une relation stable dans le temps. Bon, bah là, on a quand même pas mal répondu à cette
Ouais,
question.
je crois que là.
Comme je te dis, c'est des contraintes. Bah oui, évidemment, c'est des contraintes, mais je pense que tu as aussi déjà beaucoup de contraintes dans ta vie. Elles seront d'une autre nature et elles seront dans un but qui est très joyeux, celui de. Bah oui, en fait, quand ton gosse, il te donne quelques contraintes, mais c'est pour lui que tu le fais de toute façon, c'est pour quelqu'un que tu aimes. Aucune garantie d'une relation stable dans le temps. Ça, comme on l'a dit, la relation stable. Évidemment, il faut trouver la bonne personne au début, il faut poser les bonnes questions, il ne faut pas se mettre avec une personne bah, qui n'en veut pas, etc. Enfin, Lucas, là-dessus, je ne vais pas répéter ce qu'il dit. Mais par contre, la relation stable, après, c'est à toi de le vouloir. C'est à toi de choisir, comme je disais tout à l'heure, de t'engager, de refaire ce oui chaque jour. La relation stable, elle dépend de toi, de tes choix, et voilà.
Et d'ailleurs, concernant la pérennité du couple, que ce soit avec ou sans enfant, un couple, ça se nourrit. Il faut des projets communs. Et effectivement, un enfant, c'est pas un outil, mais le fait d'avoir des enfants, ça crée naturellement un but commun dans le couple. Et on ne peut que faire perdurer son couple en ayant des choses en commun. Ça ne marche pas d'être deux parfaits inconnus, de chacun avoir ses activités, de chacun avoir sa manière de voir le monde et de ne jamais évoluer ensemble. Et les enfants sont vraiment peut-être le parfait vecteur de ça, mais si vous êtes avec quelqu'un avec qui vous vous entendez, vous allez avoir toute votre vie un but commun. Vous allez avoir quelque chose à partager. Et d'ailleurs, c'est un petit conseil concernant les couples, si vous voulez vraiment faire perdurer votre couple, même si la personne avec qui vous êtes n'a pas les mêmes passions que vous, n'a pas les mêmes envies que vous, exactement enfin, si elle n'a pas exactement les mêmes envies et besoins que vous, essayez de partager, vous devez vous intéresser à ses envies, à ses besoins, et inversement. Parce que nourrir un couple toute sa vie, qu'on ait des enfants ou pas, si chacun s'amuse et si chacun fait ses petites passions et tout, un jour ou l'autre, ça va clasher en fait. Parce qu'encore une fois, c'est ce que tu disais tout à l'heure, un couple, c'est pas de l'amour. L'amour, c'est qu'au début. Et ma femme écoutait un podcast justement il n'y a pas longtemps sur...
C'est l'amour, mais c'est pas la même passion toute la
ben, c'est l'amour, mais c'est l'amour plus comme on l'entend aujourd'hui. Ouais. L'amour des anciens, ce que les anciens appelaient l'amour, c'était le vrai amour justement. C'était la vie ensemble, c'était le partage, c'était la construction de quelque chose à deux. C'était pas la passion.
C'est aujourd'hui, c'est ça l'amour, c'est se donner pour
exactement. L'autre. Aujourd'hui, on met en parallèle amour et passion, ce qui est pour moi deux choses complètement différentes. Moi, je suis fou amoureux de ma femme. J'ai un amour pour elle qui est indescriptible, mais pas parce que quand je la regarde, je bave. Oui, je la trouve magnifique. Oui, à chaque fois que je la regarde, j'ai les yeux qui brillent. Mais avant ça, le vrai amour que j'ai envers ma femme, c'est parce que j'ai du respect pour elle. C'est parce que les valeurs qu'elle a, elle me transcende. Et parce que quand je la regarde, je suis fier de la femme qui m'aime, en fait. Tu vois, je me dis, j'ai la chance d'avoir une femme comme ça. C'est ça, le vrai amour, en fait. C'est le fait que, quand je rentre, ma maison sent bon, ma maison est bien entretenue, mes enfants ont une bonne éducation, et tout ça, c'est en partie grâce à elle. Et c'est ça qui nourrit mon amour envers elle. C'est pas la passion. Et pour avoir cet amour-là qui perdure, il faut avoir une vie qui va dans la même direction. Il faut avoir des buts sur le long terme, construire. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, avoir du sens, mettre du sens dans sa vie. Et honnêtement, moi vraiment, je vous le dis, déconnectez-vous de ce qui se passe autour de vous sur Internet, parce que c'est un point qu'on n'a pas beaucoup abordé, mais les réseaux sociaux, Internet, le fait d'avoir accès à tout ce qui est possible et imaginable, ça vous détruit en fait, ça détruit votre vie. Si vous ouvrez un peu les yeux, alors je vais parler pour ceux qui vivent en campagne ou en ville, mais dans des petites ou moyennes villes. Si vous regardez uniquement autour de vous, en tout cas moi c'est mon cas, partout où j'ai vécu, je suis entouré de familles avec des enfants. La réalité c'est ça. Par contre, c'est vrai que si je me mets sur les réseaux, et d'ailleurs moi j'ai pas eu les réseaux pendant plusieurs années, et donc j'ai refait un Instagram il y a quelques mois, en même temps que je me suis lancé sur les podcasts, eh ben je me rends compte que voilà, je suis suivi par beaucoup de personnes qui sont seules. Et j'ai beaucoup de messages de gens qui me disent « Oui, moi, je suis dans telle situation. » Mais parce qu'on se ressemble finalement, on s'attire sur les réseaux, les algorithmes fonctionnent bien et nous mettent tous entre personnes qui pensent la même chose, qui vivent un peu la même chose. Alors que quand je regarde dehors, quand je me concentre sur ce que j'ai autour de moi, eh ben j'ai des gens qui pensent plein de choses de manière différente, mais qui par contre se lèvent le matin pour aller bosser, sont avec leurs enfants le week-end, avec leurs femmes. Tu vois, il y a une espèce de réalité que je ne vois pas sur les réseaux. Donc vraiment, essayez de vous déconnecter de ce que vous entendez sur les réseaux et essayez de simplement vivre dans le vrai monde, dans la vraie vie, au quotidien, et d'observer les gens qui sont autour de vous. Parce qu'on est encore dans une société qui fonctionne voilà, sur les bonnes bases que nous ont offertes nos anciens, que nous ont offert nos anciens. Donc, il faut encore en profiter. Ouvrez les yeux, regardez ce qu'il y a autour de vous, regardez vos voisins. Moi, mes voisins, ils ont tous des enfants, qu'ils soient plus ou moins vieux. Ils ont tous voilà, un jardin avec un trampoline, avec des conneries comme ça. Enfin, on sent que c'est la vie, en fait. On sent que c'est la vie de famille, ça perdure. Par contre, ouais, si on se met sur les réseaux, qu'on se pose un peu des questions autour de la famille, on va voir que des trucs voilà, compliqué, que ne faites pas d'enfants, ou alors faites des enfants, faut repeupler, tout ça. Ne soyez pas dans l'utopie, soyez pas dans les extrêmes, juste vivez, et vous allez voir qu'en fait, autour de vous, bah, vous êtes entouré finalement, de près ou de loin, par des gens qui sont comme vous, qui font des enfants, et qui sont dans l'espérance par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Et c'est vrai que le point que tu abordais juste avant, c'est vrai que moi, c'est les questions que je me suis posées. Et d'ailleurs, c'est un des premiers sujets qu'on a abordé quand on s'est rencontrés, le fait d'être entouré par des gens qui ne pensent pas comme nous, qui n'ont pas d'enfants, et donc on se sent un peu seul. Et tu vois, depuis la discussion qu'on avait eue, c'est un point qu'on a vachement abordé avec ma femme, et c'est vrai qu'on s'est rendu compte aussi de ça, que on fait de ce problème-là une réalité à partir du moment où on passe notre temps à parler de ça, à partir du moment où on passe notre temps à se renseigner là-dessus sur les réseaux, à partir du moment où on n'ouvre pas les yeux finalement sur... Voilà, moi, tous les matins, j'emmène mes enfants à l'école. Enfin, non, moi, je vais surtout les chercher le soir. C'est ma femme souvent qui les pose le matin. Et bien, tous les jours, je suis entouré de dizaines de personnes qui voient les choses comme moi finalement, puisqu'ils ont fait des enfants. Donc, s'il y a des gens avec qui je dois discuter, ben c'est ceux-là. C'est ces gens-là. Plutôt que d'aller parler avec d'autres célibataires, d'autres personnes qui n'ont pas d'enfants et qui se posent des questions sur les réseaux, eh ben, je vais me rapprocher de gens qui gravitent autour de moi. Même si je ne les connais pas, je vais essayer de créer du lien à ce niveau-là.
Mais les célibataires, il faut les encourager quand même.
mais c'est pour les célibataires.
Pour pas y lâcher, parce que
mais c'est pour les célibataires que j'ai cette réflexion. Mmh. C'est pour dire, moi j'étais dans cette situation-là avec ma femme de nous dire, putain, mais on est entouré de gens qui n'ont pas d'enfants, qui voient, voilà, moi j'ai grandi avec ma mère, donc ma mère s'est séparée, on est trois frères et sœurs, on a tous des pères différents, ma femme c'est pareil, ses parents se sont séparés, ils ont refait leur vie, donc on baigne dans ces exemples de familles reconstituées, de ouais, les enfants c'est relou, ouais. Mais si on se focalise là-dessus, on déprime. Par contre, si on se dit, attends, on a des voisins qui ont des enfants, tous les jours, on arrive devant l'école, il y a des gens avec des enfants, on va se focaliser là-dessus. Si vous êtes célibataire, faites la même chose. Essayez de vous rapprocher de vos voisins qui ont des enfants. Alors oui, on n'a pas le même mode de vie, mais plus vous allez vous rapprocher de gens comme ça, et il y en a encore beaucoup, c'est ce que je disais juste avant, dans la vie de tous les jours, plus vous allez être conforté dans votre envie de créer une famille, de fonder un foyer, etc. etc. Il faut vraiment essayer de se dissocier, et je reparle des réseaux, parce que vraiment pour moi, il y a des très bonnes choses sur les réseaux, mais globalement, ça vous fait plus de mal que de bien. Il faut vraiment vous ouvrir sur le vrai monde. Et c'est ce qu'on fait de moins en moins. On est à fond sur les réseaux, mais on est incapable de parler à son voisin si on ne le connaît pas. On est incapable d'aller poser les questions. Allez parler avec des parents. Vos voisins d'en face, que vous soyez dans un immeuble, dans un appartement, votre voisin de palier, ou vous soyez dans un petit lotissement, la maison d'à côté, allez voir vos voisins et dites-leur, voilà, bon, c'est un peu con ce que je vais dire, mais j'ai pas d'enfants, ou avec ma compagne, on n'a pas d'enfants, on a un peu peur, voilà, est-ce que vous n'avez pas des conseils, tu vois, et vous allez vous faire un petit barbecue, une petite discussion, et vous allez avoir l'avis de gens qui sont là-dedans, qui sont dans le vrai quotidien, et moi, je connais aucun parent qui va vous dire, oh putain, moi, je regrette, il me gonfle, si je pouvais, je le mettrais à la DAS, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, mettez toutes les chances de votre côté pour être entouré de gens qui vont vous pousser dans la bonne direction. Voilà.
Alors j'ai un commentaire de Kelly. Trouve-moi un mec. Kelly, je crois que tu as tous les avantages et tous les atouts pour trouver rapidement un mec. Je pense qu'il ne manque pas au portillon. Donc maintenant, il faut choisir et engager la seconde.
Et oui, et puis il faut aussi, c'est un point d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, mais aujourd'hui, on a des attentes très précises, et moi j'entends beaucoup de gens, oui, mais aujourd'hui il n'y a plus de mecs comme ci, oui, mais aujourd'hui il n'y a plus de femmes comme ça, s'il y en a, mais par contre, est-ce que vous les méritez? Parce que c'est pas le tout de vouloir, d'attendre l'homme parfait ou la femme parfaite qui va du jour au lendemain faire de vous un super papa, un super mari, c'est à vous aussi d'exceller dans votre rôle ou dans le rôle que vous avez envie de jouer plus tard. Et c'est ce qui va faire que vous allez rencontrer une personne que vous méritez. Et à l'inverse, qui vous mérite. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est très important parce que moi, j'entends des gens qui ont des vies éclatées au sol. Ils sont à 30 ans chez papa et maman. Ils s'amusent. Ils crament du pognon tous les week-ends. Ils font n'importe quoi. Ils ont une vie qui est vraiment... une vie d'adolescent, et ils attendent, quand on leur parle, quand vous leur posez la question c'est quoi pour toi l'homme parfait, c'est quoi la personne avec qui tu voudrais être, alors moi je veux qu'il soit comme si, je veux qu'il soit sportif, je veux qu'il ait de l'argent, je veux qu'il ait du temps pour moi, je veux qu'il me fasse me sentir une reine, mais est-ce que tu es une reine? Et toi tu veux une reine, est-ce que tu es un prince? Est-ce que tu es charmant? tu vois, et vraiment ça c'est quelque chose que je vois souvent, j'entends des demandes. Il y a des gens qui viennent me parler, qui me disent « Ouais, mais moi, j'aimerais quelqu'un comme ci, quelqu'un comme ça. » Oui, mais tu t'es regardé. Est-ce que tu crois vraiment que quelqu'un comme ça, il a envie d'être avec toi ?
Il y a beaucoup de gens qui disent « Je suis encore chez mes parents, etc. » Bah oui, bah forcément, si vous êtes chez vos parents, vous êtes déjà, vous renvoyez pas la bonne image, mais surtout, vous êtes du coup pas prêt à ça. Donc là-dessus, il faut. Alors je comprends, hein, parfois c'est. Moi, j'étais chez mes parents, mais j'étais fiancé. Je suis retourné chez mes parents un an parce que je suis allé à Paris. Mais c'était le temps. C'était l'année avant mon mariage. Et après, on a emménagé directement avec ma femme. J'étais déjà avec ma femme, etc. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous êtes chez vos parents, déjà, vous ne renvoyez pas le bon message. Vous envoyez pas le bon message de personne qui est prête, c'est bizarre. Et surtout, et si vous avez passé 23 ans, ça devient problématique, quoi.
Et les
longues études, normalement, je crois qu'en médecine, on commence à gagner un peu d'argent. Quand on fait une thèse, on peut gagner un peu d'argent. Donc, pour les très longues études, normalement, à un moment donné, faut vous sortir les doigts et avoir un minimum votre autonomie, quoi.
Et surtout comprendre que on parle encore une fois de matériel et on ne crée rien sur du matériel. Ma femme, quand elle m'a rencontré, moi j'ai eu un gros moment où j'ai badé, parce que ma femme est un peu plus âgée que moi, et elle était beaucoup plus ancrée dans sa vie quand on s'est rencontrés. Moi j'avais rien. J'étais en location dans un 40 mètres carrés, sortir mes poubelles en pauvre short claquette. J'ai vraiment, quand j'y repense aujourd'hui, on en rigole souvent, je me dis, mais comment t'as fait pour miser sur moi, en fait, tout simplement. Mais parce qu'elle voyait en moi les bonnes choses, les bonnes ondes. Je dégageais les bonnes ondes. Un mec qui est stable, qui est honnête, qui n'a pas peur, finalement, de s'engager dans la vie. Et c'est des valeurs qui vous emmèneront forcément vers le bon. Donc, en fait, vous pouvez être chez vos parents et être quelqu'un qui va vraiment attirer la bonne personne parce que vous allez dégager les bonnes choses, vous allez être dans une bonne optique. Tu parlais par exemple de ceux qui sont en médecine. J'ai un ami à moi qui est en médecine, il est à sa 7e ou à sa 8e année. Ben, c'est sûr qu'il a encore un peu une vie, pas d'adolescent, mais il n'est pas encore arrivé à un moment de la vie où on est accompli, où on peut regarder derrière soi et se dire « bon, ça y est, j'ai quand même fait le gros de ma vie ». Pourtant, on a quasiment le même âge. Par contre, c'est un choix. Parce que quand on en parle, et quand on parle de compagne ou quoi, il me dit qu'il n'est pas prêt, il n'a pas envie. Et à l'inverse, moi, je connais des gens qui, à 18-19 ans, sont déjà des hommes presque accomplis, j'ai envie de dire. Alors, ils n'ont aucune expérience en réalité. Mais par contre, ils dégagent quelque chose de positif. Donc, ne vous arrêtez pas sur le matériel. Une femme bien, qui a de beaux objectifs dans la vie et qui a des valeurs, elle se mettra avec vous si vous aussi, vous avez ces objectifs-là et que vous avez des bonnes valeurs. Peu importe la voiture, tout ça. Je veux dire, c'est pas avec une voiture qu'on attire la femme parfaite et la femme avec qui on va pouvoir construire. C'est pas avec une maison. Moi, je suis extrêmement heureux du parcours qu'on a avec ma femme parce que je pense qu'on n'aurait pas la même relation et notre couple ne serait pas aussi fort si elle m'avait rencontré avec tout ce que j'ai aujourd'hui. J'en suis persuadé. Parce que justement, le fait d'avoir traversé ces épreuves, le fait d'avoir vu qui on était réellement dans les moments les plus difficiles, ça nous permet de savoir réellement qui on a en face de nous, ouais. Et ça nous permet d'avoir vraiment ce passif commun et cette construction commune, en fait. Donc n'attendez pas de tout avoir, encore une fois, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour construire et pour être déjà dans la bonne optique.
En contraste avec ces situations de galère, entre guillemets, où les gens se mettent en couple, il y en a encore un qui fait ses études et tout, et j'ai plein d'exemples autour de moi, il faut pas attendre, il faut y aller, même si parfois vous n'avez pas la situation. Parce qu'à contrario, quand vous avez un couple où les gens ils ont 30 ans, les deux ils sont avocats, à la limite il y en a un il a son cabinet, ils ont chacun leur baraque, ils ont chacun leur voiture, vous êtes happé dans votre train-train matériel, dans votre... En fait, chacun a sa réalité matérielle, a son agenda propre, a ses acquis patrimoniaux, En fait, chacun va avoir son monde et en fait, limite, ça va être beaucoup plus difficile de se lier parce qu'on va avoir peur de mettre en partage. Ce qui est cool, c'est que ma femme, on s'est décidé à se marier, on avait peut-être 21 ou 22 ans quand je l'ai demandé en mariage, 21 ans. J'avais rien, j'avais pas de patrimoine, j'avais rien à lui offrir, elle avait rien à offrir, on n'était pas là, on n'arrivait pas avec nos réalités matérielles et patrimoniales, donc on n'avait pas peur de se donner, et du coup on n'a pas fait de contrat de mariage. Ça peut être une question qu'on peut aborder parce qu'on en avait parlé. En fait, ça crée de la division. Alors, il y a des couples, ils arrivent, ils mettent tout en commun, ils n'ont pas peur, ils ont confiance, etc. Ça, c'est super parce qu'ils ont déjà du patrimoine. Mais sachez que limite, quand vous arrivez avec tout votre patrimoine et votre situation, ça peut créer des frictions parce que peut-être que vous n'arrivez pas tout à vous dire, je donne tout, je mets tout en commun dans ce mariage. Ça peut créer des frictions. Moi, je vais vous donner l'exemple de mon petit frère. Il s'est marié, il faisait encore ses études et c'était sa femme institutrice qui gagnait l'argent dans leur foyer. Et c'est génial. Et lui, il a eu ses concours et tout. Et après, voilà, sa femme m'a appris après à prendre du temps pour être femme au foyer, s'occuper de ses enfants. Mais il y a plein de situations comme ça. Là, j'ai reçu des messages. Mon homme, je veux être femme au foyer. Mon mari est encore en études pour 3 ans minimum. Est-ce viable ? Démerdez-vous, vivez la vie parfois un peu voilà, à la dure. Alors vous limitez pas à chacun dans votre petit appart, à attendre d'avoir votre situation, parce que en fait c'est dommage, vous perdez votre temps, et vous perdez du temps et de l'énergie, et comme mon pote qui a été 10 ans avec sa femme, ils n'ont rien construit, et un jour ils se sont séparés, et voilà, passez pas à côté de votre vie pour des questions matérielles. Et vous démerdez. Et en plus, à deux, on mutualise mieux ses moyens. Alors évidemment, je vous dis pas forcément d'aller habiter avec votre meuf tout de suite, parce que parfois, ça peut même... je pense que parfois, c'est plus délétère qu'autre chose. Mais quand vous voulez vous engager, quand vous êtes prêt, et qu'un des deux qui fait ses études, on s'en fout. Allez-y, écoutez pas les parents qui font la leçon, écoutez pas votre entourage, etc.
Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « À nul sacrifice, nulle victoire ». Alors c'est un peu pompeux. Mais je crois vraiment d'expérience que rien de ce qu'on acquit, facilement, ne nous procure un réel plaisir. Il faut passer par de l'engagement, il faut passer par de la difficulté pour que le résultat et ce que l'on gagne à la fin ait vraiment de la valeur. Et le couple, pour moi, c'est pareil. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que si vous voulez lancer un business, il faut ne pas avoir peur et s'engager à fond. Mais par contre, dans le couple, non. Pour moi, ça n'a aucun sens. Dans votre couple, si vous ne vous engagez pas, vous n'aurez rien de bon. Et plus vous allez être sur la défensive, plus vous allez abîmer ce qui n'est même pas encore créé. Et moi, j'ai de très bons exemples de couples qui ont tout pour être heureux, mais qui, juste par peur de s'engager, parce qu'il faut se protéger, parce que au moins, donc tu parlais tout à l'heure du contrat de mariage, moi j'ai pas fait de contrat, enfin j'ai fait un contrat de mariage, pour justement, si un jour il y a un pépin, je perds pas mes billes, je suis pas dans la merde. Mais en fait, juste de faire ça, inconsciemment, vous me prouvez à votre partenaire, à votre femme ou à votre mari, que déjà, vous êtes pas sûr en fait. Donc, obligatoirement, en retour, vous avez quelqu'un qui n'est pas sûr non plus. Alors que si vous êtes prêt à tout donner, à vous engager, déjà vous pouvez être fier de vous parce que c'est ça qui va faire de vous quelqu'un en fait. De dire, moi, j'aime cette femme, j'ai envie d'avoir des enfants avec elle, je lui donne tout. Je lui donne tout dans mon quotidien, je lui donne tout ce que j'ai, je lui donne tout mon amour, je n'ai pas de filtre, je ne me retiens pas. En faisant ça, normalement, naturellement, votre partenaire en face va faire la même chose. Vous allez construire petit à petit, et en fait, même si un jour il y a un couac, même si pour moi il faut vraiment exclure ça, moi je vis ma vie sans me poser la question de si un jour il se passe quelque chose, je ne sais quoi. Non, peu importe, on verra, mais je donne tout, et en fait, je sais que peu importe ce qui peut se passer plus tard, j'aurai été entier dans tout ce que j'ai fait et je serai fier de moi en fait. Et je vous le dis pour parler de manière très factuelle, on va prendre un exemple concret. Demain, ma femme me quitte, elle se met avec un autre mec, et en fait, oui, je vais souffrir, mais je sais qu'au fond de moi, je serai fier. Je serai fier et je serai accompli parce qu'en fait, j'aurai tout donné, j'aurai donné mon maximum, que ce soit en temps, en énergie, en argent, sur tous les aspects de ma vie, j'aurai tout donné. Donc, je ne pourrai pas m'en vouloir. Et finalement, je vivrai ce que Dieu a prévu pour moi, ce que la vie a prévu pour moi, peu importe votre manière de voir les choses, mais faites les choses de manière... entière, lancez-vous en fait, que ce soit dans un business comme dans un couple, là nous on parle du couple, de la famille, lancez-vous, et en plus je suis désolé mais la plupart des gens qui sont là, oui moi j'ai fait un contrat et tout, vous avez rien la plupart du temps, non mais vous voyez ce que je veux dire, non mais ce que je veux dire par là c'est que on n'est pas milliardaire, on n'est pas millionnaire, on n'est pas en train de miser un patrimoine sur 20 générations. On est en train de miser un petit apport dans une maison, on est en train de miser. Donc, vous allez abîmer votre couple dès le début pour quelques milliers d'euros, en fait. Moi, aujourd'hui, si je perds tout ce que j'ai, en réalité, bon, j'ai pas grand-chose. J'arriverai toujours à me nourrir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment important d'essayer de vraiment changer sa manière de voir les choses par rapport au couple, par rapport au mariage. Engagez-vous. Engagez-vous, mariez-vous devant Dieu, devant la mairie. Le fait de s'engager, ça nous oblige inconsciemment à tenir un peu plus nos engagements, à vraiment sentir qu'on s'est mis dans quelque chose, on s'est investi dans quelque chose. C'est trop facile de dire, moi je connais des religieux par exemple, qui font le mariage religieux mais qui ne s'engagent pas devant la mairie.
Ouais.
Mais même ça, c'est une...
illégal.
C'est une feinte. Mais oui, c'est une feinte. C'est une feinte parce qu'en fait... si on est prêt à s'engager, on est prêt à s'engager sous tous les aspects, en fait. Mmh. Moi, je...
Ah oui, ils font ça dans le sens... ils n'ont pas envie après... D'accord.
Bah parce qu'en fait, Dieu, on peut un petit peu faire comme on veut, en réalité, avec Dieu.
Oui, on peut répudier sa femme ou un truc comme ça.
Exactement. Et...
Enfin, alors pas dans le christianisme religieux.
Non, mais que ce soit dans... Mais ouais, mais j'ai aussi rencontré des gens, et... Alors moi, je ne suis pas né chrétien. Je n'ai pas grandi dans une famille croyante. Je suis né athée. Et je me suis converti, entre guillemets. J'ai toujours eu au fond de moi la foi, mais je me suis converti il y a quelques années. D'ailleurs, en grande partie grâce à ma femme. Et donc, je me suis rapproché de chrétiens parce que j'avais envie de rencontrer des gens avec la même manière de penser que moi, avec des gens qui pouvaient me guider dans la foi. Et je vous avoue que j'ai aussi découvert que, ben oui, en fait, quand on est croyant, on peut être un bon croyant et on peut être un mauvais croyant. Et moi, j'ai rencontré des gens, et ce n'est pas pour dénigrer les chrétiens, je suis chrétien, je suis catholique, et pour moi, c'est... Enfin, on devrait tous être catholiques, surtout chez nous, en France. J'ai rencontré des chrétiens avec une manière de voir les choses de progressiste, mais je me suis dit, c'est pas possible. Ils ne vont pas à l'église, ces gens-là, c'est pas possible. Et pourtant, si. Donc, vraiment, mettez-vous dans la tête que en tant que croyant, vous devez vous engager devant Dieu, mais vous devez aussi vous engager devant la mairie. Et en tant qu'athée, vous devez vous engager devant la mairie, mais vous devez aussi vous engager envers quelque chose qui est plus grand que vous. Même si vous n'avez pas la foi, vous devez avoir conscience que vous ne vous engagez pas juste sur le papier. C'est pas juste je signe un papier et je le fais parce que je sais que demain on va à la mairie, ça va peut-être nous coûter 1000 balles d'avocat chacun, mais finalement, bon, ça n'a pas beaucoup de sens. Se marier, il faut que ça ait du sens. Se marier, c'est quelque chose qui est qui doit vous transcender, en fait. C'est vraiment au-delà de l'argent, des papiers, de choses comme ça. Vous devez vous donner à corps perdu dans votre couple. Et il n'y a que comme ça que vous pouvez arriver à avoir un couple qui vraiment est beau et entier, en fait. Ça ne marche pas. On ne peut pas viser l'amour parfait, le bonheur absolu, en ayant des comportements malsains. Parce que je vous le dis, faire une séparation des biens, penser à quand on va se séparer alors qu'on est en train de se marier, c'est quelque chose de malsain.
Ouais, mais c'est exactement ça. C'est malsain, ça met le ver dans le fruit, en quelque sorte.
Bien sûr.
Et on a tous peur de la séparation, etc. On a tous peur que ça se passe mal, c'est normal. Mais par contre, je peux vous dire, la seule façon de vous donner toutes les meilleures chances que ça dure pour la vie, c'est de ne pas se donner la possibilité quelque part d'une porte entrouverte où on va récupérer, comme tu disais, oui, c'est ridicule à l'échelle d'une vie, aller récupérer 5000 balles ou un peu plus d'argent parce que je crois que là, le contrat de mariage, c'est qu'on récupère un peu tout ce qu'on a gagné au fur et à mesure. Enfin, je sais même pas comment ça marche parce que c'était logique de ne pas aller mettre un pied dans la porte au cas où on a envie de s'échapper. Et c'est la meilleure façon que ça dure toute la vie, c'est vouloir que ça dure toute la vie.
Bien sûr, j'ai un exemple, juste si tu le permets. J'ai un exemple d'un gars que je connais qui a son entreprise, qui a bientôt 40 ans, qui a beaucoup d'argent, qui était avec sa femme depuis une quinzaine d'années, enfants, tout ça. Mais voilà, ils ont perdu la flamme, comme tout le monde, on ne fait plus d'efforts, et puis finalement, au bout d'un moment, hop, il y en a un qui rencontre quelqu'un d'autre, et on se sépare. Eh bien, sa femme, son ex-femme, qui en réalité n'était pas sa femme, il ne s'était pas marié, aujourd'hui, elle est dans la merde à 40 ans, parce qu'en fait, rien n'était à elle.
Ouais,
moi, je me dis, mais comment on peut vivre bien dans ses pompes en ayant passé 15 ans de sa vie avec ce qui normalement était notre moitié, notre âme sœur, et du jour au lendemain, parce que ça y est, on veut aller tirer un coup à côté et qu'on a perdu un peu la flamme, être capable de laisser cette même personne presque à la rue, en fait.
Ouais.
Tu vois, on parle beaucoup du sens et tout, mais il y a
la
aussi...
La mère de ses gosses.
Ouais, la mère de ses gosses. Aujourd'hui, la mère de ses gosses, elle est dans une situation dramatique. Elle a dû déménager à l'autre bout de l'endroit dans lequel elle vit depuis plus de 15 ans,
oui.
Juste parce qu'elle a pu un rond, parce qu'il faut qu'elle bosse à plein temps maintenant, parce que du jour au lendemain, elle s'est fait mettre à la porte. Et ça, on n'en a pas parlé. Et bon,
ça, c'est féministe.
Ben, non, mais tu vois ce que je veux dire ? L'honneur, les valeurs, le sens, il n'y a que ça qui vaut quelque chose. Oui. C'est ayez de l'honneur, visez des gens qui ont de l'honneur, qui ont des valeurs, et en fait, toutes ces situations de merde, pardonnez-moi l'expression, mais ça ne pourra pas vous arriver. Moi, je vous le dis, demain, même ma femme me fait les pires crasses du monde, je me suis engagé, j'ai donné ma vie pour elle, je ne la laisserai pas dans la rue. Et alors, c'est aussi peut-être mon parcours, moi j'ai rencontré des anciens, moi j'ai rencontré un ancien qui a été photographe, c'est un des premiers photographes pour Playboy de l'époque, il a vécu aux États-Unis à Hollywood, enfin, c'est un mec, il a pesé énormément dans le game, on va dire, dans le showbiz, avec beaucoup d'argent, aujourd'hui il n'a plus rien. Trois mariages ratés, par contre à chaque fois, il a dit... Écoute, j'ai pas été capable de te donner tout ce dont tu avais besoin, parce qu'attention, hein, qui dit showbiz dit petit comportement de coquin,
ouais.
Mais il aura tout donné à chaque fois.
Il a fait amende honorable pour son infidélité.
Alors, exactement. Donc, ça n'enlève rien à son mauvais comportement, mais il peut se regarder dans la glace aujourd'hui, parce qu'il peut assumer ses erreurs et se dire j'ai merdé, par contre, au moins, je les ai pas laissés dans la merde.
Gentleman.
Bah ouais, c'est ce qu'il faut attendre en fait. Et en tant que femme, vraiment, viser des hommes comme ça, forcer les hommes d'aujourd'hui à se comporter comme ça, à avoir des valeurs. Un homme avec qui vous êtes, même depuis quelques années, qui n'est pas sûr, qui ne s'engage pas avec vous, qui ne veut pas se marier ou alors qui veut se marier avec contrat, dégagez-le.
Qu'est-ce qu'il a à cacher ?
Mais oui, dégagez-le. Visez des gens de valeur. Et en fait, naturellement, ça va faire une sélection et ça va forcer peut-être ceux qui sont un peu sceptiques, qui se demandent un petit peu si la fourberie, c'est pas mieux que d'être valeureux, bah, ça va les mettre de côté et un jour ou l'autre, ils vont être obligés de s'engager.
Ouais. Et alors, je dénigre pas, moi, le côté, la beauté chez les gens. Il faut absolument trouver quelqu'un qu'on trouve beau parce que j'ai l'intime conviction que c'est... il faut qu'on puisse voir la beauté dans la personne qu'on aime, sinon c'est plus difficile. Mais sachez qu'après, l'amour aide beaucoup à voir la beauté chez l'autre, ça c'est certain. Mais ce qu'on peut aussi rajouter, c'est un peu bateau, mais pour les femmes notamment, pour les hommes, je pense que c'est différent. Mais pour les femmes, ça fait plaisir d'avoir un beau garçon qui est populaire, qui a des moyens. Mais sachez que ça s'acquiert. Ce qui ne s'acquiert pas, c'est un homme qui a une belle âme, qui a une âme fidèle, qui a des valeurs, qui est même idéaliste. Ça vaut tous les beaux gosses du monde et tous les princes charmants au sens physique du terme. Un homme qui va protéger vos enfants, qui va se battre pour sa famille, il vaut 10 fois plus que peut-être... un homme qui est un peu maladroit ou qui n'est pas forcément plus beau. Parce que aller faire des pompes, c'est possible. Apprendre à s'habiller à peu près correctement, c'est possible. Prendre des douches plus régulièrement et se raser, c'est possible. Par contre, devenir quelqu'un de fidèle et d'aimant, de simple, etc., ça, c'est moins facile. Voilà, vaut mieux un paysan bourru et taiseux, mais qui sera un solide gaillard toute votre vie, qu'un beau parleur, mais qui en fait, dans les faits, n'est pas solide sur les appuis et se pose un milliard de questions comme une adolescente. Aussi quelque chose de très important, je connais beaucoup de gars dans le milieu catholique et un peu bourgeois qui mettent beaucoup l'accent sur... Le capital social et culturel de leur épouse. Mais c'est le piège, mais vraiment absolu. Je connais des gens qui me disaient « Ouais, mais si ma femme n'est pas cultivée, qu'est-ce qu'elle va transmettre aux gosses ? Mes gosses, ils vont être nuls à l'école, etc. » Mais c'est un bullshit, les amis. Si votre femme, elle n'est pas aussi cultivée que vous aimeriez, mais tout ça, c'est des conneries. Vous avez besoin de... dans ma vision des choses... Trouvez-vous une épouse que vous trouvez déjà belle, vraiment, il faut que vous la trouviez belle pour pouvoir l'aimer, je pense que ça aide vraiment. Du coup, au contrario avec les femmes, trouvez une femme que vous trouvez belle, qui est également aussi n'a pas le body count de Las Vegas et qui mais qui a aussi voilà envie de s'engager, mais surtout vous arrêtez pas au fait qu'elle ait fait des grandes études. Ça c'est vraiment des énormes conneries. Pour aimer quelqu'un et créer une famille, vous n'avez pas besoin que la personne ait fait de grandes études, qu'elle connaisse par cœur la généalogie des rois de France et du comté de Savoie. Ça, c'est des conneries. La culture, ça s'acquiert. Vous avez besoin de quelqu'un que vous trouvez belle, qui partage votre socle de valeurs, qui soit capable, qui ait aussi la foi, ça aide, même si elle peut la trouver. Mais vraiment, certains mecs, là, je réponds spécifiquement à un certain type de gars qui attendent que leur femme, elle soit... elle soit bac plus 5 et tout, mais ça c'est vraiment des conneries, je vous le dis les gars, vous avez pas besoin de tout ça.
Peut-être qu'on peut conclure, Lucas, je sais pas ce que t'en penses.
Oh bah effectivement, je pense qu'on a beaucoup parlé, après c'est des sujets qui sont...
on va parler des heures.
Qui sont vraiment, je trouve, très intéressants. Alors après voilà, faut pas oublier à tous ceux qui vont nous écouter, on apporte une vision des choses, on apporte des conseils. Maintenant, il n'y a pas de réalité maître. On est tous le résultat de beaucoup de facteurs extérieurs et personnels. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment viser ce qu'il y a de l'importance. On se répète, mais vraiment, je crois que je pense qu'on s'arrêtera un peu là-dessus. C'est mon mot de la fin, on va dire. Après toi, Baudouin, tu feras le tien. Mais vraiment, moi, mon mot de la fin, c'est celui-là. C'est concentrez-vous sur vraiment ce qu'il y a de la valeur. Et il n'y a pas grand-chose qui a de la valeur, finalement. On est aujourd'hui, on passe notre temps à se concentrer sur des choses futiles, mais les valeurs telles que le courage, telles que l'engagement, telles que l'amour, c'est des choses qui deviennent secondaires. On ne passe plus la majeure partie de notre temps à se focaliser sur les choses qui ont du sens. Focalisez-vous sur ce qui a du sens. On s'en fout, encore une fois, de ce que vous possédez, on s'en fout de votre belle gueule, on s'en fout de ce que vous êtes capable de faire. Ce qu'on veut voir et ce que votre moitié voudra voir le jour où vous allez la rencontrer, ou si vous l'avez déjà rencontrée, ce qu'elle a besoin de voir au quotidien, c'est quelqu'un qui tient la route, c'est quelqu'un qui la rassure, et autant pour les femmes que pour les hommes. Moi, je suis rassuré au quotidien de voir ma femme agir de la bonne manière. Et ma femme est rassurée de voir un homme qui se tient et qui est là pour elle au quotidien. Et pas besoin d'être dans les extrêmes, pas besoin d'avoir une vie parfaite pour ça. Il suffit juste d'être quelqu'un d'honnête, de droit et qui donne tout ce qu'il peut donner. À partir du moment où vous voyez quelqu'un qui vraiment est engagé et qui n'a pas peur de faire des efforts, de se tromper, mais qui essaie, vous avez tout gagné. Prendre quelqu'un qui est mou, qui se défile à la moindre difficulté, ça ne vous mènera à rien. Soyez exigeant avec vous-même, vous pourrez être exigeant avec les gens en face de vous, et il n'y a que comme ça que vous montrez et que vous aurez une vie qui va dans la bonne direction, tout simplement.
Et pour le mot de la fin, moi j'ai enfin retrouvé une question qu'on m'avait envoyée, enfin c'était une réponse à une story, mais que je n'ai pas trouvée tout à l'heure, et en fait c'est Godefroy qui disait en commentaire: c'est pas le bon moment qui permet d'avoir des enfants, c'est avoir des enfants qui permet le bon moment. C'est une phrase qui est super bien formulée, dans le sens où, en effet, il faut pas attendre d'avoir la bonne situation, c'est justement d'être heureux, d'être accompli, c'est justement la famille, les choix que vous allez prendre de bâtir quelque chose avec votre femme et de créer une famille qui va créer cette situation, qui va faire une situation heureuse, et c'est pas tous les acquis matériels. Et après, il continue, et moi je lui dis « Ah, exact, mec, ce que tu dis. » Et après, il me répond: j'ai jamais autant évolué dans ma vie que le jour où j'ai appris que ma femme était enceinte.
Voilà. Ouais, c'est vrai.
Bah voilà, moi, je lui ai répondu, tchat. Je lui ai dit, c'est exactement ça, c'est qu'il n'a pas attendu d'avoir tout accompli dans sa vie pour créer pour bâtir cette famille. C'est cette famille qui l'a fait scale up, on va dire, qui l'a fait passer au niveau supérieur. Voilà, en fait, vous allez passer au niveau supérieur, vous allez devenir un homme, et là, je pense que vous allez, une matin que vous aurez bâti ça, bah, vous pourrez bâtir de choses encore plus grandes. Voilà.
Tout à fait. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que sinon, on s'arrêtera jamais.
On s'arrêtera jamais, déjà.
Je peux me permettre une micro-pub?
Bien sûr, vas-y.
Si, voilà, donc moi, je suis pas un influenceur, mais je pense d'ailleurs que... Non, du tout. Non, puis je fais vraiment attention par rapport au réseau à ne pas passer ma vie dessus. Bien au contraire. Par contre, voilà, si vous avez des questions, tout ça, bah, moi, c'est sur Grand Lucas Podcast sur Instagram. N'hésitez pas à venir m'écrire. Ce sera avec plaisir que je prendrai du temps pour vous répondre. Et puis, sur toutes les plateformes les plus connues de podcast, c'est Grand Lucas, tout simplement. Voilà. Donc, encore merci à toi, Baudouin, de m'avoir invité sur ton podcast. C'était très intéressant. Ouais. Bravo aux courageux qui ont tenu jusque-là.
On va faire un peu de montage, mais ouais. Mais c'est normal, c'est un sujet tellement vaste, on pourra encore parler des
bien sûr.
J'ai l'impression d'avoir effleuré plein de choses, il y a tellement de choses à dire. Mais je pense que voilà, vous avez des outils en main pour vous mettre au travail, entre guillemets. Et évidemment, dans les messages que... Alors, en fait, sachez que là, on est là, on vous encourage et tout. Mais en fait, le meilleur exemple, ce serait limite de vous lire tous les commentaires de gens qui me disent « Ah, j'ai mon troisième enfant qui arrive ». Sachez que il y a énormément de gens qui ont eu des familles, qui ça se passe bien malgré dans le monde dans lequel on vit. Et ce n'est pas une question qu'on a abordée. Mais je sais qu'il y a l'insécurité, je sais qu'il y a une poussée démographique et migratoire qui est énorme. Et on a l'impression que ça ne sert à rien parce que nos enfants vont vivre dans un monde qui peut-être qui ressemblera pas à celui qu'on chérit. Mais sachez que ce n'est pas... en refusant de combattre, entre guillemets, parce qu'on c'est très, c'est un peu guerrier comme façon de parler, mais si faire des enfants, c'est dire qu'on n'abandonne pas et qu'on est là et que notre peuple existe et résiste malgré tout ce qui se passe, malgré ce que nous disent les gauchistes à vouloir nous décourager, malgré la poussée démographique, si vous ne faites même pas ces enfants, bah c'est bon, on a capitulé. Donc justement, accélérons, faisons un de plus, deux de plus. Voilà.
C'est l'espérance, ce dont on parlait tout à l'heure.
L'espérance, voilà.
Okay. Encore merci à toi.
Ouais, merci Lucas pour c'était super intéressant et rendez-vous du coup sur grandlucas-du-bas podcast ou bien et sur toutes les plateformes. Merci à tous les amis et à bientôt et faites des gosses.